de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à toutes et à tous, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Dewi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonsoir à tous, voici le journal d'aujourd'hui. On commence par le titre « 180 vaccins COVID-19 sont en cours de développement selon l'Organisation mondiale de la santé. Corona augmente, le Myanmar arrête tous les vols antérieurs. La Corée du Sud signale une augmentation des cas de COVID-19 dans les clusters religieux et sportifs. PT Angkasa Pura I et Incheon International Airport Corporation de la Corée du Sud coopèrent l'initiation au corridor 100 à l'aéroport de Bali. Les pays développés et en développement ne sont pas prêts à affronter la COVID-19, a déclaré le président Jokowi. Eric Thohir espère que le vaccin rouge et blanc pourra être produit en 2022. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré qu'environ 180 vaccins COVID-19 étaient en cours de développement dans le monde, dont 35 étaient en cours d'essai sur l'homme. Tedros Ghebreyesus a déclaré vendredi aux journalistes à Genève qu'aucune maladie de l'histoire n'avait connu un développement rapide dans la recherche. Ceci est la preuve de progrès extraordinaires en sciences et technologies que le monde a réalisé ces dernières années. Selon lui, ces développements doivent être accompagnés de l'ambition de garantir au plus grand nombre possible l'accès aux vaccins. Les autorités birmanes ont rétabli des mesures fermes pour contrôler la propagation du coronavirus après avoir signalé une récente augmentation des cas. Les autorités locales ont temporairement arrêté tous les vols antérieurs et interdit les voyages au départ de Yangon, la plus grande ville du Myanmar. Comme le rapport l'Associated Press vendredi dernier, les deux mesures fermes sont appliquées à partir du vendredi, heure locale, jusqu'au 1er octobre. L'augmentation des cas de corona a commencé en août dernier dans la région ouest de Rakhine et largement répandue dans d'autres zones. La Corée du Sud a signalé vendredi une augmentation quotidienne des cas de coronavirus alors que les infections des églises et des manifestations politiques qui ont déclenché une deuxième vague d'épidémie se sont atténuées et que de nouveaux cas sont apparus dans des groupes religieux, des hôpitaux sportifs et universitaires. Les centres coréens de contrôle et de prévention des maladies ont signalé 176 nouveaux cas jeudi à minuit, ce qui porte le nombre total d'infections à 21 919 avec 350 décès. La nouvelle vague d'infections qui s'est produite dans une église dont les membres ont assisté à des manifestations majeures dans les centres de Séoul les mois derniers a poussé le décompte quotidien à un sommet en quelques mois. PT Angkasa Pura I collabore avec Incheon International Airport Corporation, basé en Corée du Sud, dans le cadre de la mise en œuvre des directives d'initiation d'un corridor 100 à l'aéroport Igusti Ngurah Rai de Bali. Le président directeur de PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi, dans sa déclaration officielle à Badung, Bali, a déclaré vendredi que par cette coopération, son parti essayait de convaincre et d'accroître la confiance de la communauté locale et internationale pour revenir au transport aérien avec un sentiment de sécurité et de confort. Cette collaboration a été marquée par la signature d'un accord de coopération par Faik Fahmi et le président directeur général de la IIC, Bon Hwan Ku, virtuellement de leurs bureaux respectifs à Jakarta et Incheon jeudi dernier. Le président Joko Widodo a déclaré qu'aucun des pays n'était prêt à faire face à la pandémie du coronavirus ou COVID-19. Parce que cette pandémie a provoqué une crise multidimensionnelle en termes de santé et d'économie. 215 pays doivent faire face à des problèmes de santé et des problèmes économiques très complexes. C'est ce qu'a déclaré le président Jokowi dans un discours scientifique pour le 63e anniversaire de l'Université de Pajajaran par vidéoconférence vendredi dernier. Ce problème extraordinaire doit être traité de manière inhabituelle. Par conséquent, toutes les parties doivent s'adapter au changement. Les choses qui étaient auparavant considérées comme non naturelles, maintenant sont une nécessité. Le président Jokowi a déclaré que les normes de normalité avaient changé, non seulement la normalité liée à la santé, mais aussi la normalité liée à la culture du travail et aux méthodes de travail. La nouvelle normalité doit également être appliquée dans les activités d'enseignement et d'apprentissage dans les universités. Il a souligné que les bons professeurs sont des professeurs qui aident les étudiants à apprendre de n'importe qui, par de n'importe quel média et à tout moment. Le ministre des Entreprises d'État, ou BUMN, est président du Comité pour la gestion de COVID et la reprise économique nationale, Eric Tohir, espère que le vaccin rouge et blanc commencera la production en 2022. Eric Tohir, dans un discours scientifique à l'Université de Pajajaran, Bandung, vendredi, a déclaré la présence du vaccin rouge et blanc COVID-19 afin que l'Indonésie ne dépende pas des vaccins produits par des producteurs étrangers. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter les infos de l'Indonésie. Le premier info de la ville de Palembang dans le sud de Sumatra. La province du sud de Sumatra a accéléré la réparation du stade en réponse aux recommandations de la FIFA concernant les conditions pour accueillir la Coupe du Monde U20 du mai à juin 2021. Le gouverneur du sud de Sumatra, M. Herman Deru, a déclaré mercredi à Palembang qu'en tant que l'un des candidats, le sud de Sumatra avait apporté des améliorations au stade principal et à un certain nombre de stades d'entraînement, y compris de l'air, des sièges pour les spectateurs et des sièges pour les joueurs. Avec des améliorations massives du stade, Herman Deru a optimisé. Les chances du sud de Sumatra d'accueillir la Coupe du Monde sont très ouvertes, bien que la décision finale attend la vérification de la FIFA. Les nouvelles suivantes sont venues de Magelang, Java Central. Le gouvernement de la Régence de Magelang distribuera des pistolets thermiques à chaque hameau de la région pour anticiper la propagation de la COVID-19. Dans cette région, il y a environ 2700 villages. Le régent de Magelang, M. Zainal Arifin, a déclaré à Magelang jeudi que le gouvernement de Magelang avait également distribué des masques à la communauté et aussi communiqué avec le gouverneur central pour demander une ambulance ou une voiture pour test PCR. Il a dit que le pistolet thermique pouvait être utilisé lorsqu'il y avait des activités dans le village telles que des cérémonies traditionnelles ou les autres. Les dernières nouvelles sont venues de Kota Waringin Ouest, Kalimantan Central. Le gouvernement de la région de Kota Waringin Ouest dans la Kalimantan Central a commencé à ouvrir la route de vol Pangkalan Bun, Surabaya et vice-versa au milieu de la pandémie COVID-19. Le régent de Kota Waringin West, Nur Hidayah à Pangkalan Bun, a déclaré mercredi que le retour au vol normal à l'aéroport Iskandar Pangkalan Bun avait un impact sur l'amélioration de l'économie de la communauté, mais que la santé devait toujours être prise en compte. Le chef de l'unité de gestion de l'aéroport Iskandar Pangkalan Bun, Zuber, a déclaré que presque tous les jours, toutes les compagnies aériennes sont toujours pleines avec des liaisons Pangkalan Bun, Jakarta, Pangkalan Bun, Semarang et Pangkalan Bun, Surabaya. Il a dit que pour chaque itinéraire de vol, la compagnie aérienne moyenne transporte des passagers entre 100 jusqu'à 120 personnes. Le nombre de places disponibles est toujours complet. Pour l'instant, seule la route vers Semarang comporte deux vols. Chers amis, c'était la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci d'être fidèle à la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire aujourd'hui. Le 2 septembre 1980, le coup d'État turc dirigé par Kenan Evren. Le coup d'État avait débuté par un conflit armé entre l'aile droite et gauche, qui était une guerre indirecte entre les États-Unis et l'Union soviétique. Pour intervenir, l'armée turque a laissé le conflit s'aggraver. Après le coup d'État, la violence a immédiatement cessé. On a considéré le coup comme un rétablissement de l'ordre. 50 personnes ont été condamnées à mort, 500 000 ont été arrêtées et des centaines sont mortes en prison. Le 2 septembre 2007, tremblement de terre à Bengkulu. Le tremblement de terre à Bengkulu en 2007 était une série de tremblements de terre survenus dans la fosse de Java au large de la côte de Bengkulu à Sumatra, en Indonésie. Le séisme a déclenché une alerte au tsunami sur les côtes de l'océan Indien. Le séisme initial avait une magnitude de 7,9 sur l'échelle de Richter le 2 septembre 2007. L'épicentre était situé à environ 10 km sous terre, à environ 105 km au large de Sumatra. Ce séisme principal a été suivi d'une série de répliques sur la même faille. Le séisme principal a également été suivi d'un raz de marée qui a ensuite inondé au moins 300 maisons et bâtiments publics à l'île de Pagai, les îles de Mentawai jusqu'à une hauteur de 1 mètre. 21 personnes ont été tuées et des centaines blessées. Le 2 septembre 1923, la création de l'Union islamique ou persiste. Persatuan Islam abrégé PERSIS est une organisation islamique en Indonésie. Il a été fondé le 2 septembre 1923 à Bandung par un groupe de musulmans intéressés par l'éducation et les activités religieuses dirigées par Haji Zamzam et Haji Muhammad Yunus. Cette organisation s'est répandue dans de nombreuses provinces, notamment Java occidentale, Jakarta, Riau et Gorontalo. PERSIS n'est pas une organisation religieuse à orientation politique, mais se concentre sur l'éducation islamique, da'wah et essaie de faire respecter les enseignements islamiques sans être mélangés avec Khurafat, le shirk et le bid'ah qui se sont largement répandus parmi les musulmans ordinaires. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Ku terpaku padamu saat jumpa engkau senja itu, ku hela nafasku dan membisu kala pandang kita kagumi parasmu Tuhan, ingin ku mencoba mendekatmu kala pandang kita beradu. Kita bintang.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
C'était la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. La rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique « Mon Indonésie » intitulée « L'Indonésie et le Brésil partagent leurs pratiques de développement de biocarburants ». Le ministère de la Recherche et de la Technologie, l'Agence nationale pour la recherche et l'innovation par l'intermédiaire de l'Agence au renforcement de l'innovation, en collaboration avec l'ambassade du Brésil en Indonésie, a organisé un webinaire sur le thème « Le développement des biocarburants Indonésie-Brésil, leçon tirée du développement du biocarburant à base de biothanol brésilien mercredi ». Le succès de Pertamina et ITB dans le pilotage de la production de diesel vert décent à partir de l'huile de palme désodorisée blanche raffinée d'une capacité de 1000 barils par jour à la raffinée de Pertamina Dumai a donné une lueur d'espoir pour la montée de l'indépendance des énergies renouvelables en Indonésie. On prévoit que les biocarburants à base de palmier à huile permettront à l'économie indonésienne de progresser plus rapidement pour la reprise économique parce que le secteur de l'énergie joue un rôle important et stratégique dans l'économie nationale. Citant la page www.ristekbrin.go.id, le ministre de la Recherche et de la Technologie qui est aussi le chef de l'Agence nationale pour la recherche et l'innovation, M. Bambang Brojonegoro, a déclaré dans sa présentation que l'Indonésie devait changer sa dépendance aux combustibles fossiles à celle des combustibles renouvelables. Il a ajouté que l'Indonésie doit augmenter la capacité de carburant renouvelable dans l'énergie mix d'environ 23% en 2025 et espère atteindre 31% en 2050. Avec le succès de l'Indonésie dans le pilotage de la production de diesel vert décent à l'échelle industrielle, l'Indonésie tirera ensuite les leçons du succès du Brésil dans la mise en œuvre de la canne à sucre dans le biocarburant pour produire à l'échelle commerciale. Le succès du Brésil dans la mise en œuvre de l'utilisation de biocarburants à base de canne à sucre, notamment le succès dans la mise en place de la politique de tarification de la canne à sucre qui sera adaptée par l'Indonésie dans la politique réglementaire pour déterminer le prix de l'huile de palme ou bien l'huile végétale industrielle, les carburants biohydrocarbonés et le soutien à la recherche et au développement sur ADN de palme supérieure durable. Citant le rapport de l'agence de presse Antara, à cette occasion, l'ambassadeur du Brésil en Indonésie, José Amir da Costa Dornelles, a déclaré qu'il soutenait l'Indonésie dans la réalisation de biocarburants à base d'huile de palme. Il espère que cela renforcera les relations entre le gouvernement brésilien et les acteurs économiques et la partie indonésienne. Lors du webinaire, le Brésil partage ses expériences et ses pratiques dans le domaine du développement de biocarburants et les politiques qui le soutiennent. L'ambassadeur da Costa Dornelles a expliqué que le Brésil avait développé et utilisé des biocarburants à base de biothanol obtenus à partir de la canne à sucre. Il a expliqué que la canne à sucre est actuellement la source d'énergie la plus importante au Brésil, qui atteint 80% de l'approvisionnement total en énergie primaire, deuxième après le pétrole. La canne à sucre produit suffisamment d'éthanol pour remplacer 46% de toute l'essence vendue au Brésil. Le webinaire a également été suivi par le chef de la société brésilienne du conseil agricole Datagro Consulting, Plinio Nastari. Il a déclaré que le principal élément de la politique brésilienne en matière d'éthanol comprend une nouvelle loi qui place l'innovation et l'efficacité dans la production et l'utilisation de carburant au cœur de la stratégie du Brésil pour l'utilisation de sources d'énergie à faible émission de carbone. Le règlement sur la spécification du carburant offre une sécurité juridique aux fabricants d'automobiles et de pièces automobiles et aux distributeurs de carburant. Plinio recommande de changer le paradigme de consommateur pour passer au biocarburant à une date ultérieure. Le gouvernement indonésien doit être en mesure de garantir aux consommateurs qu'avec le biocarburant, les voitures peuvent bien fonctionner. Selon lui, il devait y avoir des efforts de communication et de coopération entre le gouvernement et l'industrie automobile et institutions ou des parties liées pour créer une prise de conscience et une combinaison des aspects environnementaux et techniques de biocarburant. Chers amis, c'était la rubrique Modernisie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
De Jakarta, voici la Voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Jantungku berdetak sangat kencang saat ku melihatmu. Wahai elokuarasmu membuatku menjadi gemeteran saat ku memandangmu.
Bon, chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz, 4750 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec le magazine culturel introduisant Gempol Plaeret culinaire traditionnel de Solo. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonesia, La Voix du Midi. Gempol Plaeret est l'un des culinaires légendaires de Solo. Il n'y a pas beaucoup de commerçants qui vantent de la cuisine Gempol Plaeret. Bien qu'il comprenne des produits culinaires rares à Solo, dans certains endroits, il existe encore des commerçants qui vantent de Gempol Plaeret, comme dans la région de Pasar Gede. Certains disent Gempol Plaeret comme boisson en raison de sa présentation rafraîchissante. Mais il y a aussi ceux qui l'appellent la nourriture, parce que nous serons rassasiés quand nous mangeons ces aliments. Les ingrédients de base de cette boisson typique sont la farine de riz et la farine de riz gluant. Plaeret est fait de farine de riz qui est faite de pâte et formée pour être des morceaux minces comme le wonton. Après cela, il est cuit à la vapeur. Plaeret a différentes couleurs, il y a une couleur brune, rose et verte. La couleur provient du sucre qui est mélangé à la pâte de farine de riz. La couleur brune signifie que la pâte est ajoutée par du sucre de palme, tandis que la pâte verte ou rose, sucre qui est utilisé est du sucre granulé et du colorant alimentaire. Gempol est un foin blanc, il y a aussi ce qui appelle gempol comme boulette de riz. C'est parce que le processus de fabrication de gempol est similaire au processus de fabrication des boulettes de viande. L'ingrédient principal pour la fabrication de gempol est le riz agro-grain, qui s'appelle alors meniran. La qualité du riz a un effet sur la saveur de gempol produit. Un bon riz avec un bon processus produira de délicieux plats culinaires. Pour faire du gempol, le meniran existant est ajouté avec du lait de coco épais pour former une pâte. Ensuite, le mélange est ajouté avec un peu de sel et de sucre. La pâte meniran est ensuite formée comme des boulettes de viande et bouillie dans l'eau bouillante. Si le gempol a déjà flotté, le signe de gempol est mort. Enfin, pour pouvoir présenter gempol plaeret, il est nécessaire de faire du bouillon de lait de coco qui est fabriqué à partir de lait de coco mince et de sucre. Pour les exhausteurs de goût, vous pouvez ajouter un peu de sel. Ce lait de coco doit être cuit à feu moyen tout en continuant à le garder sous agitation afin que le lait de coco ne se casse pas. Gempol plaeret est servi avec un bol. Tout d'abord, nous mettons un ou deux morceaux de gempol et de plaeret, puis arrosé avec du lait de coco. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des glaces pilées ou des glaçons qui sont brisés en petits morceaux. À titre de variante, on peut également ajouter des morceaux de zakiye ou de ruban adhésif vert. Pour un bol de glace de gempol plaeret, il suffit de payer 5000 rupiah. Ce qui est tout à fait abordable, n'est-ce pas? Chers amis, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci d'être fidèles avec nous. À demain!
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Et pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur et en titre, les étudiants de l'Université d'Indonésie, UI, gagnent des navires à économie d'énergie de classe mondiale. 12 étudiants de la faculté d'ingénierie de l'Université d'Indonésie, FTUI, qui ont rejoint l'équipe UI Hydros, ont remporté le premier prix du prix Coup de cœur en tant qu'équipe la plus favorite du concours Solar and Energy Boat Challenge 2020 Online Edition. L'équipe Hydros UI transporte le navire catamaran avec l'innovation utilisant des sources d'énergie respectueuses de l'environnement. Ce concours de navires à économie d'énergie de classe mondiale se tient en ligne pendant 9 jours, du 30 juin au 8 juillet 2020. Le concours, qui se tient généralement à Monaco chaque année, est maintenant devenu une édition en ligne du concours en raison de la pandémie COVID-19. Si au cours de l'année précédente, les participants ont concouru dans trois classes, trois catégories de courses et quatre catégories hors course, les participants s'affrontent maintenant seulement dans la catégorie hors ligne. Ce prix a été décerné sur la base de l'évaluation par les juges de la préparation, de l'innovation et de l'esprit d'équipe au cours de la période d'un an en préparation de la participation à l'édition en ligne de la compétition organisée par le Yacht Club de Monaco. L'équipe Hydros UI a conçu un bateau catamaran, soit un navire à deux coques d'une longueur totale de 5 mètres. La conception du navire est également équipée d'un cockpit, d'un système d'hélice de navire, soit système de propulsion électrique avec l'aide de panneaux solaires de 500 WP comme puissance supplémentaire. Avec un poids de 230 kg, ce navire utilise également une batterie de 5 kW comme source d'énergie respectueuse de l'environnement et un panneau solaire de 2,5 m² qui peut stocker plus d'énergie et aller deux fois plus vite. D'autres innovations développées cette année sont des mises à jour sur la conception de la coque du navire, l'utilisation de matériaux entièrement en fibre de carbone dans le cockpit du navire, des modifications de conception, des matériaux et des mécanismes de gouvernail et d'hélice pour améliorer l'efficacité des systèmes de propulsion des navires, des changements dans le matériau de montage du moteur, l'utilisation de systèmes LoRa, soit long range, c'est-à-dire l'utilisation d'une technologie sans fil à faible consommation et à faible coût qui permet le transfert d'informations dans un rayon de dizaines de kilomètres et l'utilisation d'un système de surveillance de l'alimentation pour la prise de décision en temps réel pendant une course. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Rendez-vous avec moi, Tiwi, dans le magazine Musica. Cette édition parle d'une chanson de Keroncong intitulée Jauh di Mata. La chanson intitulée Jauh di Mata signifie « Loin des yeux » a été créé par le talentueux compositeur indonésien Ismail Marzuki. Cette chanson raconte d'un couple qui doit se séparer à cause du temps et de la distance. Même si elle est loin de son amant, elle se rappelle toujours aux souvenirs et au visage de l'amant. Les paroles de cette chanson montrent également la loyauté d'une femme qui attendra la personne qu'elle aime toute sa vie. Même si le tempo est long et évoque une rupture, le rythme et la musique de la chanson semblent joyeux. Bon d'accord, chers auditeurs, voici Tuti Trisadia chante la chanson dont le titre est « Jauh di Mata » signifie « Loin des yeux ». Bonne écoute.
Oh, jauh di mata, dalam kenangan wajahmu tetap. Thank you.
Voice of Indonesia.
C'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.